Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce sixième numéro de La Casa des Babel, l'émission que vous commencez désormais à bien connaître, qui consiste à chaque semaine donner la parole à cinq étudiants à travers le monde pour nous parler de l'actualité politique, culturelle ou sociétale de leur pays. Cette semaine, nous irons au Royaume-Uni pour parler du coût des universités. Nous irons ensuite à Santiago de Chile pour parler écologie, un reportage qui fera écho à un reportage d'une des émissions précédentes qui portait sur Bogota, donc la Colombie. Nous irons ensuite pour la première fois en Afrique, au Ghana, pour parler du lourd passé que porte ce pays, qui a connu le commerce lié à l'esclavagisme. Nous irons ensuite aux États-Unis, où nous parlerons d'une association qui cherche à lutter contre la politique de séparation des familles promues notamment par l'administration de Donald Trump. Et nous terminerons l'émission par un reportage sur l'évolution des droits des homosexuels en Inde ainsi que sur leurs conditions plus généralement dans ce pays. Tout de suite, le premier reportage, il est signé Fabian Castillo et son sujet porte sur les frais de scolarité dans les universités britanniques et même plus précisément les universités anglaises. Fabian Castillo pour Cause Commune.
Il y a maintenant 20 ans que les frais de scolarité sont apparus dans les universités publiques anglaises. D'abord plafonnés à 1000 livres, ils ont progressivement augmenté au fil des années, atteignant en 2017 la somme de 9250 livres, soit près de 10 400 euros. Enfin, ce prix concerne les étudiants britanniques et ressortissants de l'Union européenne. Pour les autres, le coût des études peut varier entre 10 000 et 38 000 livres par an. L'Angleterre est ainsi devenu l'un des pays les plus chers en termes de coûts d'études, dépassant même les universités publiques américaines qui tournent autour de 6 700 livres l'année. Si je ne parle que de l'Angleterre, c'est parce que le système d'éducation varie au sein du Royaume-Uni. Ainsi, seul le Pays de Galles a instauré le même montant de 9 250, mais le gouvernement propose également des bourses pouvant aller jusqu'à 5 000 livres. En Angleterre par contre, la seule aide proposée est un prêt au gouvernement qui couvre l'entièreté de la scolarité et qui est à rembourser après l'entrée des étudiants dans la vie active. Voyons un peu ce qu'en pensent de leur côté les premiers concernés. Nous nous retrouvons avec Sam, Alexander et Alexis, trois étudiants de l'université du Kent à Canterbury, respectivement anglais, polonais et français. À peu près tous les étudiants anglais restent étudiés ici, donc ça fait juste partie de la vie. On a cette dette qu'il faudra rembourser. La méthode de remboursement est plutôt juste. On rembourse en fonction de notre revenu, et tant qu'on gagne moins de 21 000 livres, on ne paye pas. Mon frère et ses amis sont diplômés et ont commencé à rembourser leurs frais, mais ça représente seulement 200 livres par mois, ce qui n'est pas une aussi grosse tête, donc ça ne les dérange pas. Si tu veux aller à la fac, tu te dois d'être sérieux, et avoir une dette de 9 000 livres permet aux gens de vraiment s'engager.
Quand j'ai postulé aux universités, j'ai regardé un peu partout dans le monde. Quand j'ai vu les frais en Angleterre, j'étais agréablement surpris. Je sais que beaucoup d'étudiants se disent qu'ils sont très chers, mais j'ai regardé ceux aux États-Unis et au Canada, et les frais anglais restaient moins chers. Le système de prêt est aussi très bien. Je pourrais le rembourser dans le futur, quand j'aurai un travail et un salaire suffisant. Je pense que beaucoup d'étudiants polonais préfèrent venir au Royaume-Uni, car même si c'est plus cher, il y a beaucoup plus d'opportunités.
Je pense quand même que c'est assez élevé. Ça empêche beaucoup de monde de venir à l'université. Après, ça dépend de la définition qu'on donne à l'université. Donc en Angleterre, ils ont une définition très... donc c'est carriériste. On vient pour avoir un boulot qui paye mieux, c'est tout. C'est pas... Alors moi, pour moi, je vois l'université comme quelque chose qui est censé élever le niveau de la population, améliorer son éducation. Donc mettre un prix dessus, c'est pour moi assez dérangeant. Mais bon, en restant pragmatique, plus d'argent dans l'université, ça veut dire qu'il y a des meilleurs moyens. Donc c'est quand même, comparé à la France, l'administration marche beaucoup mieux, les profs ont beaucoup plus d'argent pour la recherche, la librairie est bien, bien mieux entretenue, le campus est bien mieux entretenu. Donc c'est très difficile de se positionner dessus, en fait.
Des retours plutôt positifs donc. Mais sont-ils représentatifs du sentiment général ? Il est important de noter que les étudiants les moins fortunés, de peur de se retrouver vite endettés, sont parfois impactés sur le choix de l'université et se refusent à aller dans des villes telles que Oxford ou Londres. Une bourse était disponible jusqu'en 2016 pour les étudiants de conditions modestes, et depuis quelques mois, le Russell Group, qui regroupe les meilleures universités britanniques, milite pour son retour. Même si Theresa May, la première ministre britannique, a avoué plus tôt dans l'année que le Royaume-Uni avait maintenant l'un des systèmes d'études les plus chers du monde, et a promis de rendre le système plus juste, elle continue de penser que ceux qui reçoivent une éducation universitaire doivent contribuer à son coût. Il est donc peu probable que les frais de scolarité baissent dans les années à venir, mais qu'au contraire, ils continuent d'augmenter avec l'inflation. Le climat du Brexit risque aussi de les faire payer plus cher aux étudiants européens, qui jusque-là payent le même prix que les natifs. Il faut toutefois noter qu'en France, nous ne sommes pas non plus à l'abri de ce type de changement. Le Premier ministre Édouard Philippe a en effet annoncé sur Twitter il y a quelques jours un projet d'augmentation considérable des frais de scolarité pour les étudiants hors européens. Ainsi, d'après les témoignages recueillis et le ressenti général, les études sont chères, mais le pays reste attractif par ses opportunités, le budget dont disposent les universités et leur rayonnement international. En tout cas, à ceux qui veulent venir étudier en Angleterre, rassurez-vous, il n'y aura pas d'augmentation l'année prochaine.
Merci à Fabienne Castillo pour son très bon reportage. Nous passons donc au reportage suivant sur les évolutions de la cause écologique au Chili, dans la capitale Santiago. Comme vous avez pu l'apprendre lors du reportage sur l'évolution de l'écologie à Bogota, beaucoup de progrès restent à effectuer en Amérique latine du point de vue des consciences. Alors qu'en est-il plus précisément dans la capitale chilienne ? C'est ce que nous allons voir avec Léa Giandomenico.
C'est un vendredi matin dans la capitale chilienne. Comme d'habitude, la 4 voies qui traverse la ville est congestionnée par des centaines d'habitants qui se rendent au travail, klaxonnant impatiemment à l'intérieur de leurs véhicules. L'idée de développement durable et d'action responsable en Amérique latine représente un véritable enjeu. De nombreuses villes sud-américaines comme Santiago sont engorgées par le trafic. En effet, à Santiago, l'utilisation des transports en commun pour aller travailler n'est pas acquise de tous, et c'est pourquoi de nombreux Chiliens utilisent encore leur voiture. De plus, Santiago est une ville très étendue et très fortement peuplée. On y trouve 4 900 000 habitants environ, pour une superficie de 641 km². Environ un tiers de la population chilienne vit dans la capitale. De fait, s'y déplacer correctement est un problème qui se pose. Le bus et le métro permettent de se déplacer facilement, mais manquent parfois de praticité. Le réseau de transport public n'est pas développé de la même manière que dans nos capitales européennes. On peut donc imaginer que c'est la raison pour laquelle les santiaguinos, comme on appelle en espagnol les habitants de Santiago, préfèrent conduire leur propre véhicule. De fait, la ville manque d'air et les habitants suffoquent. En effet, la pollution est même perceptible à l'œil nu. À Santiago, un smog s'étend au-dessus de la ville et la surplombe, masquant parfois même les montagnes de la cordillère qui bordent la métropole. De plus, le fait que la ville devienne moins sûre à la tombée de la nuit encourage la population à commander un Uber pour rentrer chez soi le soir plutôt que de prendre le métro ou de rentrer à pied. Outre la pollution qui assiège la ville, le recyclage représente un autre enjeu environnemental auquel est confronté Santiago et tout le Chili en général. Dans les maisons de la capitale, on trouve généralement une seule poubelle dans laquelle tous les déchets sont mélangés. Carton, plastique, papier et déchets verts. Faire le tri n'est absolument pas une pratique commune et le système de recyclage n'est pas bien implanté dans le pays. La plupart du temps, il n'y a pas de poubelle de tri dans les rues et les habitants doivent marcher une quinzaine de minutes avant d'en rencontrer une, ce qui n'est pas très encourageant. Le gouvernement a bien essayé de responsabiliser les entreprises. En effet, en mai 2016, le Chili a adopté une loi relative au recyclage et à la responsabilité des producteurs. Cette loi concède de nouvelles responsabilités au secteur privé au niveau de 5 types de produits. Les appareils électroniques, les huiles de tout type, les pneumatiques, les batteries et les emballages. Le principe, Les utilisateurs renvoient les produits usagés à un intermédiaire qui les retourne ensuite aux fabricants d'origine ou aux distributeurs, responsables du recyclage. C'est le premier pays d'Amérique latine à adopter une telle loi. Pourtant, c'est la population qui reste à sensibiliser, car le plus difficile est de faire évoluer les mentalités des Chiliens concernant le recyclage et son importance. Au Chili, le recyclage domestique représente aujourd'hui moins de 2%. De plus, dans les supermarchés, l'utilisation des sacs plastiques pour faire ses courses est de mise. En effet, au bout de chaque caisse attendent des personnes chargées de proposer des sacs plastiques gratuitement aux clients, qui de fait ne sont pas incités à penser à prendre leur propre sac de courses autre qu'en plastique. Même si en juin 2018, une loi obligeait les supermarchés à ne proposer plus que 2 sacs par personne, le plus gros reste à faire et les habitants restent à conscientiser. J'ai pu discuter avec Rodrigo, 29 ans et habitant de Maipú en périphérie de Santiago, au sujet de sa vision du recyclage et de son importance pour les Chiliens.
Je recycle, en fait, j'habite à Maipú et c'est la périphérie de Santiago et je recycle juste les plastiques et les verres. C'est tout, pas les cartons, mais voilà. En fait, c'est la commune de Maipú, c'est plus petite que Santiago, donc c'est plus pratique pour faire le recyclage pour la journée. En fait, quand je suis à l'école, il n'y a personne qui m'a donné l'information pour faire le recyclage. Et maintenant, je crois que c'est un peu changé et la gens commence à recyclage, pas beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas de publicité ou des programmes qui passent à la radio, comme ça va. La commune, les communes, elles font plus que les gouvernements, quand même, tu vois. En fait, les gouvernements, ils ne font pas pour inciter à la gens pour faire le recyclage. Bah, j'espère que ça change.
Comme l'explique Rodrigo, les petites communes sont plus à même de mettre en place des dispositifs de recyclage, au contraire des grosses métropoles comme Santiago. Souvent, ces petites communes comme Maipú dispose de plus de moyens financiers, ce qui peut expliquer cela. De plus, alors même que le gouvernement met en place quelques mesures incitatives, elles demeurent transparentes puisque les citoyens chiliens n'en ont pas connaissance. Ainsi, miser sur l'éducation au recyclage à l'école semble être aujourd'hui nécessaire.
Merci à Léa Giandomenico pour son reportage. Tout de suite, nous allons marquer la première pause musicale de l'émission avec Go Down Moses, interprété par le trompettiste Louis Armstrong. Ce morceau qui reprend un texte biblique pour illustrer la condition des esclaves noirs aux États-Unis nous permettra d'introduire le prochain reportage qui est le premier en Afrique pour la Casa de Babel, au Ghana, sur justement les stigmates de l'esclavage, mais pas seulement. Go Down Moses, interprété par Louis Armstrong.
Go down, Moses, way down in Egypt land. So hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go. Let my people go. So Moses went to Egypt land. Let my people go. He made old Pharaoh understand. Let my people go. Yes, the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way down in Egypt land. Let my people go. Let my people go.
Lord bold Moses said,
"Let my people go.
If not, I'll smite your firstborn dead.
Let my people go."
'Cause the Lord said, "Go down,
go down,
Moses,
Moses,
where?"
Vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 en Ile-de-France, cause-commune.fm partout ailleurs. Vous venez d'écouter l'interprétation de Go Down Moses par Louis Armstrong. Alors il est temps de vous laisser avec Marc Longuet qui, au Ghana, nous montre l'ambivalence de la vie de la population locale, durablement marquée par les stigmates du commerce esclavagiste, mais également pleine de dynamisme et de vitalité. Marc Longuet pour Cause Commune.
Chérira la mer, écrivait Baudelaire. Mais ici, sur les côtes du Ghana, à Cape Coast surtout, ce poème résonne d'une façon tout autre. Car la liberté, justement, des millions d'hommes et de femmes l'ont perdue sur cet océan, victime de la traite atlantique mise en place par les Européens, réduits en captivité puis en esclavage, et envoyés aux États-Unis, aux Antilles ou encore au Brésil, à des milliers de kilomètres en tout cas de leur famille et de leur terre natale. Pour en savoir plus sur cette histoire, nous allons aujourd'hui à Cape Coast. Et pour l'atteindre, il faut d'abord prendre un trottro, sorte de minibus partagé et peu cher, qu'on retrouve partout pour voyager au Ghana, et dans lequel, fenêtre ouverte, on peut profiter du vent et du paysage si vert du sud du Ghana pendant les 3 heures de route qui séparent la ville et Accra, la capitale. La première image de Cape Coast, c'est celle d'une ville carte postale, palmiers, sable blanc et océan. Mais derrière cette surface, il y a une histoire lourde, celle de la traite atlantique qui a duré près de 400 ans, du 15e au milieu du 19e siècle, malgré l'abolition officielle en 1807. On estime aujourd'hui qu'entre 12 et 15 millions d'Africains et d'Africaines ont été déportés durant cette période, et la côte ghanéenne est un point majeur en Afrique de l'Ouest dans ce système atlantique, mis en place par les Européens mais auxquels ont participé aussi des royaumes africains, par exemple le royaume Ashanti, qui dominait à l'époque le Ghana et fournissait les Européens en captifs, souvent capturés lors de guerres avec d'autres peuples pour les conquérir.
400 ans c'est trop long, c'est pas la mer qui prend l'homme, c'est Christophe Colomb.
Le principal rappel de cette histoire, ce sont les forts qui se dessinent dans le paysage. Il y en a plus de 80 sur toute la côte. Je vous emmène aujourd'hui dans l'un d'eux, le fort de Cape Coast, justement. On estime que 25% des déportés du Ghana ont transité par ce fort, qui était l'un des plus actifs, et qu'au plus fort de la traite, entre 1700 et 1800, près de 70 000 personnes par an étaient déportées. Mais avant même la déportation et la traversée, ces forts étaient surtout des prisons. Les captifs étaient enfermés, parfois pendant des mois, dans des conditions atroces dont notre guide ne peut nous donner qu'une idée. Ils étaient enchaînés et enfermés, endurant l'urine et le vomi qui étaient au sol. Ils pouvaient rester dans ce type de conditions pendant 3 mois. Beaucoup sont devenus partiellement aveugles. La malaria et la diarrhée a tué beaucoup d'entre eux. Ce que je dis ici, c'est que plus nombreux sont ceux qui sont morts dans ces donjons que ceux qui y ont survécu. Cape Coast est aussi devenu un des endroits les plus symboliques en Afrique concernant la mémoire de la traite. Et pour les Afro-Américains notamment, la ville et son fort sont devenus un passage important dans le parcours de mémoire. Ils sont des milliers tous les ans à faire le voyage, comme Monique Ross, qui est venue depuis New York. How does Comment it feel vous sentez for you to be d'être là, d'entendre tout ça? All that? It's a little devastating La première impression, ça a été d'être dévasté. Mais c'est tout bon de savoir ce qui s'est passé et de pouvoir reconnecter son histoire avec ce qui s'est passé ici. Dans les donjons, ont été enfermés hommes et femmes. Beaucoup ont déposé des objets, des photos et énormément de fleurs pour rendre hommage à leurs ancêtres déportés. Mais Cape Coast, même si la mémoire est présente, c'est aussi et surtout une ville vivante. La vie est celle d'une ville côtière, des pêcheurs qui remontent leur filet à côté des pirogues, des enfants qui jouent, rentrent de l'école ou courent après des bébés chèvres, des étals pleins de noix de coco, de mangue ou d'autres fruits selon la saison, des magasins où l'on peut trouver à peu près tout ce qu'on cherche, des groupes de personnes discutant à Londres, des shop bars qui vendent de la nourriture dans la rue, des taxis qui klaxonnent pour indiquer qu'ils ont de la place, et des chansons que crachent les radios et qui résonnent dans les rues. Comme dans tout le reste du Ghana, on retrouve deux religions. La première, c'est celle de la musique, de la danse, et les Ghanéens en sont en la matière de fervents disciples. Fervents, ils le sont aussi dans la pratique de leurs différentes religions. Dans un pays où 95% des personnes se revendiquent croyantes, surtout chrétiennes, à près de 75%. La religion tient une place centrale et fait partie intégrante de l'identité nationale. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder autour de soi, que ce soit sur les panneaux publicitaires des autoroutes qui annoncent des concerts ou des prières collectives, ou sur l'arrière des trottoirs qui ont chacun leur petite inscription comme « Love the Lord » ou « God is great ». Mais la meilleure façon de percevoir cette foi des Ghanéens, cela reste de sortir le dimanche matin, à l'heure où les chants de la messe inondent les rues, vidées de leurs habitants.
Merci à Marc Longuet pour son superbe reportage. Nous allons maintenant changer de continent, aller aux États-Unis, où Siam Erouche a rencontré une militante de l'association By All Means Necessary, qui lutte contre la politique de séparation des familles menée par l'administration de Donald Trump. Siam Erouche, pour Cause Commune.
Bonjour à tous, nous voilà actuellement sur la côte ouest des États-Unis à Berkeley. La politique américaine fait jaser, et ce d'autant plus depuis que Trump est au pouvoir. Il est pourtant un sujet très préoccupant qui n'est pas toujours relayé dans les médias européens et a fortiori français. Je parle ici de la politique de séparation des familles d'immigrants, menée par le gouvernement américain dans le cadre de sa politique migratoire labellisée « tolérance zéro », afin de, semble-t-il, dissuader les familles, notamment honduriennes et mexicaines, d'entrer aux États-Unis en leur faisant miroiter le sort que leurs enfants risquent d'y subir. Cette politique jugée inadmissible et cruelle par le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme est donc l'objet de cette capsule. C'est au sein de l'université de Berkeley, en Californie, que nous nous rendons afin de rencontrer une membre de l'organisation « By any means necessary », soit « Par tous les moyens nécessaires ». Si cette organisation luttant pour la protection des droits des immigrés a de nombreux champs de bataille, le combat contre la politique migratoire de séparation des familles y est au premier plan, comme nous allons le voir. Bonjour Marie-Cruz, est-ce que tu voudrais bien te présenter brièvement et expliquer à ceux qui nous écoutent les projets qui sont menés par BAMN pour lutter contre la politique de séparation des familles orchestrée par Trump ?
Oui, alors bonjour, je m'appelle Marie-Cruz Lopez et je suis organisatrice au sein du groupe Droits civils et droits des immigrés de l'association BAMN, par tous les moyens nécessaires. L'intitulé exact de notre association est Coalition de défense de la discrimination positive, de l'intégration et des droits des immigrés dans un combat pour l'égalité par tous les moyens nécessaires. Nous avons essayé de mener le mouvement de résistance contre Donald Trump pour le forcer à démissionner ou à être révoqué. Notre mouvement se concentre tout particulièrement sur la résistance face aux déportations à caractère raciste orchestrées par Donald Trump dans le cadre de sa politique de séparation des familles. Nous avons donc mené la campagne à Brownsville, Texas, où nous cherchons à mobiliser les populations à la frontière entre le Mexique et les États-Unis au Texas. Brownsville concentre de nombreux centres de détention pour migrants, que nous considérons comme étant une forme moderne de camp de concentration. Nous voyons Brownsville comme une énorme opportunité pour mobiliser la communauté, pour forcer la fermeture des centres de détention qui s'y trouvent. Nous pensons qu'en mobilisant à Brownsville, nous voulons faire ce que Dr. King in Birmingham, Alabama, avec sa mobilisation nationale, a réalisé en partant de ce lieu symbolique du racisme des lois Jim Crow. L'idée est que s'il a été capable de briser les chaînes de Jim Crow à Birmingham, alors il est capable de le faire dans l'ensemble du pays. C'est en ce sens que nous voyons Brownsville.
We see Brownsville as our Birmingham, where if we go to Brownsville and can shut down a detention center there.
C'est comme notre Birmingham. Si on peut y faire fermer un centre de détention et mobiliser les habitants, alors nous pouvons le faire pour le reste du pays et mobiliser les gens sur l'ensemble du pays pour la fermeture des camps de détention.
To shut down detention centers, and we think what we need now is leadership.
Nous pensons que nous avons maintenant besoin de leadership pour le mouvement des droits des immigrés. Et dans cette perspective, nous envisageons la campagne menée à Brownsville comme un passage obligé dans la construction de ce leadership nécessaire à la fermeture des camps de détention et à la défense des droits des immigrés. Chez BAM, un leader est quelqu'un qui apprend à quelqu'un d'autre comment se défendre. Pour ce qui est de la Bay Area, nous avons organisé de multiples manifestations contre la politique de séparation des familles, tout comme notre branche dans le Michigan l'a fait. Et nous pensons qu'il faut continuer à protester. Nous protestons aujourd'hui, nous protesterons demain, et nous ne nous arrêterons pas avant que l'on ait gagné. Et un autre moyen par lequel nous avons lutté contre la politique de séparation menée par Trump est en défendant une famille vénézuélienne qui a échappé au régime du président Maduro, la famille Benavides Pineda, qui a été forcée de fuir le Venezuela car elle y fait partie du mouvement d'opposition. C'est donc pour cela qu'ils sont dorénavant demandeurs d'asile aux États-Unis et que nous nous organisons chez BAM pour éviter leur déportation. Il est important de souligner qu'en raison de leur choix de rendre ce combat public, nous pouvons organiser la riposte et mettre en place des tribunes, et ce jusqu'à leur passage en justice en janvier, pour s'assurer que leur éventuelle déportation au Venezuela ne soit pas effective et qu'ils puissent obtenir l'asile ici. Par ailleurs, nous espérons qu'en obtenant gain de cause, plus nombreux seront ceux qui portent leur combat sur la scène publique, comme le fait la famille Benavides Pineda.
Merci à Sia Mirouche et à la militante associative qui a accepté de témoigner sur son combat. Nous allons maintenant marquer la seconde pause musicale de l'émission pour préparer encore une fois le prochain reportage qui arrive juste après. Nous allons écouter Charles Aznavour, comme ils disent, un morceau emblématique quant à la cause homosexuelle, puisque justement le prochain reportage portera sur l'évolution des droits pour la communauté LGBT en Inde. Vous êtes bien sur Cause Commune, et tout de suite, Charles Aznavour, comme ils disent.
J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de canaries et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit, que je l'exerce travesti. Je suis artiste, j'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease, et dans la salle je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homo, comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes dans un quelconque bar tabac. Et là, on s'en donne à cœur joie et sans complexe. pense. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours, mouillé d'acide. On rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablé. Marché ondule, Saint-Jean, ce qu'il croit être nous, et se couvre les pauvres fous de ridicule. Ça gesticule et parle fort, ça joue les divas, les ténors de la bêtise. Moi, les lazis, les colibets me laissent froid, puisque c'est vrai, je suis un homme, oh, comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche mais ne dors pas, je pense à mes amours sans joie, si dérisoire. À ce garçon beau comme un dieu qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame. Car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme, comme il dit.
Vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 en Ile-de-France, cause-commune.fm partout ailleurs. Nous allons terminer cette émission avec le cinquième reportage signé Aurélie Locke portant sur l'évolution récente des droits des homosexuels en Inde avec des témoignages assez poignants. Je vous laisse découvrir. Aurélie Locke pour Cause Commune.
Oh, thank you so much, Supreme Court of India! They are legalized LGBTIQ community. Thanks a lot.
Ces cris de joie, c'était le 6 septembre dernier. Le 6 septembre 2018, les 5 juges de la Cour suprême ont voté à l'unanimité l'amendement de la section 377 qui jugeait les relations entre deux personnes du même sexe comme un crime. Désormais, en Inde, aux yeux de la loi, les personnes homosexuelles ne sont plus considérées comme des criminels et ont la possibilité de vivre leur amour au grand jour. Mais comment cela est-il perçu au sein de la société? Deux mois après cette prise de décision historique, il semble donc temps de faire un point sur la question. Navgit est professeur et chercheur. Il dresse un portrait de cette communauté au sein de la société indienne. Parce qu'en Inde, c'est considéré non pas exactement comme un tabou, mais disons qu'on n'en parle toujours pas ouvertement. Bien que la communauté LGBT n'est plus vue comme criminelle aux yeux de la loi, je pourrais dire que l'acceptation sociale, même si la nouvelle génération est plus ouverte, elle est plus tolérante, il reste des parties de la population où l'homosexualité est toujours perçue comme un péché, comme un tabou. Je parle là des coins retirés d'Inde, vu que l'Inde est quand même un énorme pays. et qu'il y a de grandes villes qui sont développées, mais il y a aussi des petites villes qui ne sont pas encore si développées, qui ne sont pas conscientes, qui ne sont pas éduquées. Et si un garçon ou une fille fait son coming out dans cette famille, on ne l'acceptera pas. Les parents de ces familles préfèrent même l'emmener voir un docteur. Ils vont plutôt cela comme une maladie mentale, comme un tabou. Certaines notions, ces notions ont encore du poids en Inde. En effet, alors que dans les grandes villes comme Mumbai, Delhi ou Calcutta, les communautés LGBT sont extrêmement présentes et actives, organisant des gay prides, jouant des pièces de théâtre dans la rue pour faire prendre conscience de leur existence et de leur situation, il est beaucoup plus difficile d'affirmer son identité à la campagne. Donc, j'ai un ami qui habite dans un coin très isolé du Punjab. Il a migré en Australie et il travaille en tant qu'aide universitaire. Et pour lui, ce fut un changement de vie total. Avant, il était dans une phase de déni, mais quand il est arrivé, il a vu que c'était accepté, que c'était naturel, qu'il n'avait pas à en avoir honte. C'est à partir de là qu'il l'a accepté et qu'il a voulu en faire part à sa famille. Et sa famille fut très furieuse parce qu'elle n'arrivait pas à justifier le fait que leur fils soit gay. Elle a pensé qu'elle avait fait une erreur en l'envoyant en Australie, qu'il était parfaitement normal avant de partir et que c'est seulement en partant qu'il avait fait une mauvaise rencontre et que maintenant il était devenu gay. Ainsi, les relations avec la famille restent difficiles à appréhender, les cercles proches n'étant pas prêts à accepter cette affirmation d'identité. L'homosexualité reste vue comme une tare, et pour tenter de remettre la personne dans le droit chemin, certaines familles vont même jusqu'à marier la personne de force. Il faut dire que la famille garde une place importante au sein de la société indienne, et les mariages sont, pour la plupart, arrangés. Faire son coming out est donc lourd de conséquences. L'amendement de la section 377 sécurise au moins l'espace public pour la communauté LGBT, et pour longtemps cette fois. En effet, une première dépénalisation avait été prononcée en 2009 avant qu'une loi passe à nouveau en 2013 qui interdisait toute relation entre deux personnes du même sexe. Je pense que maintenant ça ne va plus changer parce que le parti du peuple, BJP, est au pouvoir et c'est un parti progressif. Mais parfois il est considéré plutôt comme conservateur, surtout quand on parle de la culture indienne. Et c'est assez plaisant de voir que c'est ce parti qui a accepté cette décision. Tout le monde l'a accepté. Donc, bien que la communauté LGBT est maintenant protégée par la loi, l'acceptation sociale va prendre encore plus de temps. L'amendement de la section 377 n'est donc qu'un début dans la lutte de la communauté LGBT pour la reconnaissance de ses droits en Inde.
Merci à Aurélie Locke pour ce reportage poignant. Il est maintenant temps de terminer ce sixième numéro de l'émission. Pour l'émission de la semaine prochaine, celle du 1er décembre, nous aurons beaucoup de reportages en Europe, en République tchèque, en Norvège et en Écosse notamment, et nous nous permettrons de voyager un petit peu en allant à Melbourne et à Vancouver. Ça a été un plaisir de vous présenter ce sixième numéro de l'émission. Merci encore de nous écouter. N'hésitez pas à partager les podcasts sur les réseaux sociaux et à réagir à l'émission sur le chat de Cause Commune que vous pourrez trouver sur le site de la radio cause-commune.fm. Je vous souhaite une bonne journée sur Cause Commune et à la semaine prochaine.